On va continuer à parler d'un chef de parti, mais aussi d'un chef politique, Xi Jinping, en Chine, qui lui, alors effectivement, a un visage débonnaire sur les affiches de propagande. Il est présenté comme étant quelqu'un de très gentil, d'accueillant et d'accessible. Dans les faits, évidemment, il en est tout autrement. Et pour en parler, je suis en compagnie de Dominique de Rambure. Vous êtes ancien banquier international. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 1 et vous avez notamment publié Chine, une transition à haut risque. Et à côté de vous, j'accueille Alice Ekman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Et vous venez de publier un ouvrage collectif intitulé « La Chine dans le monde ». Alors avant d'évoquer justement la Chine dans le monde, sur la personnalité de Xi Jinping et sur les réactions qu'il suscite, j'évoquais un éditorial du New York Times et cet éditorial disait en substance que les Occidentaux ne s'étaient pas émus du fait que l'on ait aujourd'hui officiellement une dictature à la tête d'un pays comme la Chine. Et l'une des explications, c'est peut-être que pour beaucoup d'Occidentaux, la Chine est un pays trop grand et trop complexe pour être une démocratie. Votre point de vue à ce sujet, Alice Ekman?
D'abord, c'est un pays qui est opaque. Le système politique chinois demeure assez opaque. Trouver des informations sur la Chine, sur le 19e congrès. Par exemple, l'annonce de la révision de la constitution pour éventuellement prolonger le mandat du président. Nous-mêmes, les spécialistes de la Chine, on ne pouvait pas l'anticiper. En tout cas, on ne pouvait pas anticiper la date de cette annonce. Donc, c'est un système politique difficile à analyser dans ce contexte. Et plus largement, il est difficile d'imaginer les spécificités du contexte chinois parce qu'il est assez atypique. Centralité du Parti communiste chinois, une bureaucratie d'influence soviétique et en même temps l'usage de techniques de contrôle traditionnelles, humaines. Par exemple, Xi Jinping a appelé au renforcement de la surveillance mutuelle entre individus.
Sympathique.
Mais aussi utilisation de nouvelles techniques de contrôle. Par exemple, grâce à l'utilisation et l'investissement massif que fait le parti vis-à-vis d'analyse des données agrégées du big data et également en mise en place d'un système de crédit social et donc une surveillance technologique avancée. Donc c'est un système à la fois extrêmement traditionnel au sens communiste du terme et extrêmement moderne, et c'est pour ça que ce côté hybride, à mon avis, est particulièrement difficile à analyser de l'extérieur, pour les gens qui n'ont pas le temps, de vraiment lire entre les lignes de la communication officielle du parti.
Dominique de Rambure.
Eh bien, écoutez, la Chine n'est pas seulement un pays autoritaire, c'est un pays totalitaire. Il faut l'appeler par son nom. Là, depuis, sous le régime de Xi Jinping, depuis qu'il est au pouvoir, comme vous l'avez dit, les mesures de contrôle de la société et de l'individu se sont multipliées. Par exemple, la Chine, qui est en pointe dans un certain nombre de domaines de l'innovation et de la technologie, est en tête notamment des techniques d'identification faciale. Les ordinateurs de la police sont capables de retrouver quelqu'un et d'aller immédiatement dans son fichier vérifier. Et comme vous l'avez dit, il y a un système de scoring qui est d'ailleurs inspiré des banques. Les banques, comme vous le savez, rassemblent des renseignements, des informations pour savoir si vous êtes capable d'emprunter et si vous êtes capable de rembourser votre crédit. La Chine a repris le système, enfin le pouvoir a repris le système. Tous les citoyens maintenant ont un scoring, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de points, comme le permis à points, et ce permis et ces points, à chaque fois que vous commettez une infraction, que vous avez une amende ou que vous dites un mot déplaisant sur le régime, on vous retire un point, ainsi de suite. Et quand vous n'avez plus de points, eh ben on vous convoque.
Alice Ekman, sur le plan cette fois-ci extérieur, a-t-on raison d'avoir peur ? Et aujourd'hui de Xi Jinping, quelles sont les différentes stratégies qu'il mène aujourd'hui à l'égard de l'étranger ?
Il est ambitieux quant à la place de la Chine dans le monde. Aujourd'hui, on assiste à une compétition d'influence réelle qui est stimulée par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Xi Jinping considère qu'il n'est pas seulement temps de lutter contre ce qu'il appelle les forces occidentales hostiles qui voudraient démocratiser le pays, mais il est temps de contre-attaquer. et de promouvoir à l'étranger un modèle de développement et de gouvernance alternatif, caractérisé par une planification forte, un rôle de l'État dans l'économie particulièrement fort, un leader capable de prendre des décisions rapidement. Et la Chine aujourd'hui se positionne comme exemple vis-à-vis d'un nombre croissant de pays en développement et émergent. Et je ne pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'attrait de ce modèle pour certains pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste vraiment dans le monde à une compétition d'influence et une compétition de modèles et de systèmes politiques. Aujourd'hui, peut-être, on en rit en France, mais dans certains pays, on peut dire que ça prend, pour parler simplement.
Parmi les risques géopolitiques qui sont souvent pointés, on nous explique que la prochaine confrontation à venir est celle qui pourrait avoir lieu entre les États-Unis et la Chine. Elle a déjà lieu sur le plan économique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque également de voir une escalade entre ces deux pays ?
La Chine considère qu'elle dispose de nombreuses options avant l'option militaire. Donc le poids économique, mais aussi la gouvernance mondiale, l'investissement dans les institutions internationales, mais aussi le droit international. La Chine souhaite promouvoir de nouvelles normes, de nouveaux standards internationaux qui seraient différents de ceux qu'elle considère injustement imposés par les puissances occidentales. Et donc, il y a une compétition qui se manifeste, une rivalité renforcée qui se manifeste à différents niveaux et qui, pas uniquement au niveau militaire, la Chine investit dans ses capacités militaires, elle modernise sa marine, mais on peut dire qu'il s'agit d'un rattrapage parce qu'elle est encore loin derrière les États-Unis et ses alliés en Asie-Pacifique. Mais la rivalité Chine-États-Unis se décline dans un grand nombre de domaines, y compris dans des domaines qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, même par exemple au niveau lexical. La Chine utilise de plus en plus les mêmes mots que ceux utilisés par les États-Unis, dans un contexte où Trump semble moins responsable ou apparaît peut-être moins responsable. En tout cas, la Chine joue sur le contraste Chine responsable, États-Unis qui ne le serait pas, dans le contexte actuel.
Et la Chine se positionne, discours par exemple de Xi Jinping à Davos,
voilà, comme garant de la mondialisation, du développement pour tous, garant de la gouvernance mondiale et aussi du multilatéralisme. La Chine investit beaucoup dans le multilatéralisme.
C'est-à-dire,
elle renforce sa participation dans les institutions existantes, telles que l'Organisation des Nations Unies, mais elle crée aussi de nouvelles institutions multilatérales, telles que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, pour mieux promouvoir ses intérêts et également façonner l'agenda international selon ses priorités.
Dominique de Rambure, votre point de vue à ce sujet, vous êtes plutôt inquiet sur la Chine,
plan extérieur. Je suis inquiet parce que là, la Chine manifestement pousse ses avantages aussi loin qu'elle le peut. C'est le propre de tous les régimes, disons, agressifs, autoritaires, pour ne pas dire totalitaires. Je ne pense pas que le modèle chinois soit applicable dans d'autres pays. Il a des spécifications chinoises telles que, en revanche, les modèles chinois servent un peu de prétexte à un certain nombre de régimes autoritaires à qui on reproche d'être pas assez démocratique, et là, tout d'un coup, trouve une justification. Mais oui, notre régime existe déjà. En revanche, la Chine a un problème géopolitique. C'est-à-dire, effectivement, la Chine veut affirmer son autorité en tant que puissance régionale. Et là, Xi Jinping, d'ailleurs la politique a été amorcée par son prédécesseur, Hu Jintao, a adopté une politique beaucoup plus agressive que celle que recommandait Deng Xiaoping. C'est-à-dire que nous avons tout à fait, nous avons une nouvelle Chine qui veut affirmer son autorité. Alors, la politique est assez différente. Du côté de l'Est, c'est-à-dire de l'Orient, la Chine veut transformer la mer de Chine en une mer chinoise. C'est-à-dire, elle veut éliminer les États-Unis. Bon, et faut reconnaître qu'elle en a pris chemin. Donc, elle a une politique extrêmement brutale, militaire, d'occupation des îlots contestés.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut expliquer, parce que la présence de ces îlots contestés avec une législation internationale qui a été soigneusement piétinée par la Chine mérite d'être éclairée.
Alors, il faut d'abord considérer Il y a une différence culturelle entre nous et la Chine. Nous sommes un pays de contrats, nous sommes un pays de dialogue et de consensus, et les traités sont considérés comme des contrats entre deux pays. On respecte un contrat non seulement parce que c'est éventuellement notre intérêt, mais aussi parce que c'est la base de notre organisation, et si on rompt le contrat, et ben la prochaine fois on ne pourra pas. La Chine, c'est pas ça du tout. La Chine est dans un rapport de force. Donc, il s'agit de savoir quelle est la méthode la plus efficace à utiliser dans une circonstance donnée. Alors effectivement, dans certains cas, ils utiliseront le multilatéralisme, mais je pense que c'est pas vraiment une doctrine du régime.
Alice Ekman.
Oui, deux choses. Je pense qu'il faut être nuancé dans l'approche chinoise de la région Asie-Pacifique. Certes, il y a de nombreux points de tension. En même temps, la Chine est extrêmement consciente des réalités géopolitiques et aussi de l'importance et de l'influence américaine dans la région Asie-Pacifique. En effet, elle souhaite limiter cette influence, mais à terme, c'est-à-dire que c'est à l'horizon 2050. Et ça, c'est très intéressant de voir à quel point le Parti communiste chinois sous Xi Jinping établit une stratégie, une planification à formation lente dans la région. Et donc, c'est pas à pas, petit à petit, qu'elle souhaite réorganiser la région et vraiment reconsidérer le système d'alliance américain. Elle souhaite pas le remplacer par un autre système d'alliance, mais par un système de partenariat qu'elle développe de manière flexible aujourd'hui. Deuxième point sur les différences culturelles, je nuancerai également car on a observé des pays de culture chinoise dans la région Asie-Pacifique qui ont une autre approche du droit et de certains différents territoriaux que la Chine. Donc c'est avant tout là une question d'intérêt national, de réalisme plus que de culturalisme. Et voilà, la Chine est extrêmement pragmatique dans la région.
Et puis j'ai Les Échos, le journal Les Échos sous les yeux. Et alors chaque jour, il y a, pas forcément en une, bien souvent dans les pages intérieures, une entreprise chinoise qui prend le contrôle d'une entreprise occidentale, parfois française. Là par exemple, aujourd'hui c'est le groupe Fosun qui est parfaitement inconnu. En revanche, ce qui est connu, c'est l'entreprise dont il vient de prendre le contrôle. Il s'agit de Lanvin, la marque de mode. Fosun a déjà le Club Méditerranée, qui est une entreprise connue là aussi. Et on voit qu'il y a quand même, Alice Ekman, une stratégie de la Chine par rapport à ça. Parce que là, c'est une stratégie qui, bien évidemment, ne se fait pas en contradiction avec la volonté de l'État.
Oui, c'est-à-dire que le cas des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en Europe n'est pas propre à la Chine. Ce qui inquiète dans le cas chinois, c'est la coordination et le soutien étatique derrière un certain nombre d'investissements dans des secteurs stratégiques, notamment à forte valeur ajoutée, relatif aux nouvelles technologies, etc. Et donc c'est cette augmentation rapide dans des secteurs spécifiques qui posent question. Et aujourd'hui, existe une vraie réflexion à Bruxelles sur la manière dont gérer ce type d'investissement.
On en avait parlé d'ailleurs hier dans les matins au sujet des terres agricoles, en l'occurrence en France, avec la volonté de mettre un terme à cela. Dominique de Rambure, vous qui avez été auparavant banquier justement dans les investissements chinois en Occident, quelle stratégie percevez-vous?
Alors quand vous êtes un pays sous-développé, et que vous voulez vous engager sur le progrès, notamment le progrès technologique, pour atteindre un niveau de développement, il y a deux méthodes. La première, c'est de développer vos propres technologies. C'est lent, c'est long, c'est difficile. La deuxième méthode, c'est de l'acheter ou de l'acquérir par d'autres moyens. Donc la Chine utilise les deux méthodes. Elle développe ses propres technologies, notamment en faisant revenir à grands frais les Chinois qui sont allés étudier à l'étranger. Et deuxièmement, elle achète, grâce à sa puissance financière, les sociétés qui sont susceptibles de faciliter son développement dans des régimes clés. Le problème, c'est que le système lui a échappé. C'est-à-dire que vous avez des grands groupes, privés et publics, qui ont utilisé les facilités de financement, on pourra peut-être en reparler, parce que c'est un point clé, au prix d'un endettement considérable, à acheter des sociétés un peu tous azimuts. Vous avez des groupes qui ont acheté des équipes de football, etc. Et la Chine a dû redresser la barre et reprendre le contrôle de ça. Et il y a un deuxième facteur, c'est qu'en 2015, il y a une crise boursière et une crise d'échange extrêmement grave. En un an, la Chine a perdu 1 000 milliards de dollars de réserves pour soutenir la monnaie. Et donc, depuis cette date, pour freiner freinait les sorties de capitaux, le gouvernement et le parti ont mis un frein à cette frénésie d'achat à l'étranger.
Et oui, parce que justement, si on prend l'interview de Gao Guangcheng, qui est donc le dirigeant de Fosun, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux actifs que je citais tout à l'heure, autrement dit, le Club Med et Lanvin, sont deux entreprises, alors pour le Club Med auparavant et pour Lanvin aujourd'hui, non rentables. Il peut les ramener à la rentabilité, mais en tout cas, ce sont des acquisitions risquées. Et on voit qu'il y a là, effectivement, une stratégie qui est assez conquérante et qui doit être autorisée dans une perspective de rendement lointain. Il y a une nouvelle qui aurait pu faire scandale, qu'on a évoquée hier dans les matins et qui finalement a fait peu de bruit à l'ISECMAN, c'est le fait qu'Apple, sous la pression du gouvernement chinois, a finalement rétrocédé son cloud. Le cloud, c'est le stockage d'informations. On a tous un lien, même si on ne le sait pas, avec le cloud d'Apple ou d'une autre marque dès lors qu'on a un téléphone portable. Et le gouvernement chinois a réussi à faire pression sur Apple, qui généralement ne résiste aux pressions, pour reprendre la propriété du cloud d'Apple, ce qui montre en quelque sorte à la fois l'intérêt du gouvernement chinois pour les datas personnelles, mais aussi sa puissance par rapport à une multinationale.
Oui, la Chine, le Parti communiste chinois, pour être précise, n'a pas la même définition que nous d'Internet. C'est un Internet souverain, gérable par l'État, qui peut être éteint, qui peut être contrôlé, limité.
Des sites inaccessibles.
Oui, et donc éteint.
Est-ce qu'on peut avoir Facebook en Chine aujourd'hui ?
Non. Bon, après, il y a des moyens de contournement, mais ces moyens de contournement, tels que les VPN, sont de plus en plus difficiles
les
d'accès.
Les VPN, ce sont des fausses adresses qui permettent d'avoir accès à des sites interdits.
Oui, mais vous avez raison, la Chine investit de plus en plus dans la gestion des données. Par exemple, elle investit beaucoup dans les data centers, mais aussi dans les câbles sous-marins pour les flux des données, y compris dans le bassin méditerranéen. Donc, pour la Chine a bien compris qu'il s'agissait d'un secteur d'avenir, évidemment, mais elle a une vision de la gestion de ces données qui est différente de la nôtre et une utilisation qui doit être avant tout au service du parti.
Dominique de Rambure.
Oui, c'est un grand classique de la politique chinoise. Les sociétés étrangères ne sont bienvenues qu'à condition qu'elles s'inscrivent dans les objectifs du parti. Et dans toute, on peut rappeler que Google avait tenté à plusieurs reprises de pénétrer sur le marché américain jusqu'au jour où la presse américaine a découvert que Google, pour avoir le droit d'émettre en Chine, avait été obligé de transmettre aux autorités les coordonnées d'un certain nombre de dissidents qui utilisaient Google pour faire connaître leur point de vue.
Ce qui est quand même incroyable.
C'est incroyable, mais c'est le fait. Et Google, jusqu'à ce qu'on découvre la chose, ne s'était pas, s'était soumis au contraire. Il y a eu une confrontation. Bon, Google, sous la pression de l'opinion, a été obligé de quitter la Chine. C'est le pouvoir qui l'a quitté. Mais rassurez-vous, on finit toujours par s'arranger. Maintenant, Google émet à partir de Hong Kong. Donc, c'est un régime très caractéristique du régime chinois. Une société étrangère, quel que soit le domaine d'activité, ne peut pas s'installer seule. Elle est obligée de s'associer à un partenaire local et de se soumettre aux contraintes du parti et du gouvernement.
Et du coup, les méfiances, alors là, cette fois-ci, dans l'autre sens, Alice Ekman, parce que on se dit qu'un grand nombre de composants qui sont aujourd'hui dans nos ordinateurs sont fabriqués en Chine. Il y a des clouds chinois qui sont situés en Chine. Et on se demande dans quelle mesure il est bien raisonnable d'avoir des actifs stratégiques ou des pièces venues de Chine pour éventuellement en empêcher le contrôle de la part d'un pouvoir chinois qui pourrait être malveillant.
Alors, je ne vais pas me positionner sur les choix des individus, chacun est libre. Ce qui est intéressant
d'analyser.
Vous pouvez
vous positionner sur le choix des gouvernements.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant d'analyser, c'est que la Chine, aujourd'hui, est exportatrice de technologies, y compris parmi ses clients et contre certains gouvernements qui veulent, pour des raisons, ce qu'on appellerait en termes diplomatiques, de stabilité sociale, avoir les moyens de mieux contrôler les manifestations, de mieux contrôler les mouvements sociaux. Et donc, il y a deux développements analysés, c'est à la fois les développements technologiques en Chine, mais aussi les conséquences de ces développements technologiques dans le développement technologique d'autres pays clients de la Chine. Et à mon avis, il y aura encore, au-delà de la compétition d'influence, également une compétition dans la gestion des individus et la gestion des informations de ces individus.
Merci beaucoup Alice Ekman. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, La Chine dans le monde, aux éditions du CNRS. Dominique de Rambure, Chine, une transition à haut risque.